Bonjour, frères et sœurs. Continuons l'étude de l'Épître aux Romains. La semaine passée, nous avons terminé le chapitre 2, et à la fin du chapitre 2, Paul dénonçait avec vigueur l'hypocrisie des Juifs de son temps. En fait, à l'époque de Paul, les Juifs pensaient pour la plupart qu'ils étaient du bon côté, du côté saint, du côté de... Puisqu'ils étaient dans l'alliance avec Dieu, ils pensaient qu'ils étaient pour la plupart... sauvés d'avance, en fait, qu'ils étaient déjà citoyens du royaume des cieux, et ils jugeaient sévèrement les païens. Le problème, c'est que, alors même qu'ils jugeaient les païens, eux péchaient comme eux. Ils commettaient les mêmes péchés, même que la liste qui est donnée est assez horrible. Et en faisant cela, leur culpabilité était double parce que non seulement ils péchaient, mais ils déshonoraient Dieu, qu'ils se présentaient comme des serviteurs de Dieu, mais ils commettaient des péchés ignobles, et les gens du monde les voyaient, et ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Au contraire. Et même s'ils étaient circoncis, Paul introduit le sujet de la circoncision, qui était la marque de l'alliance avec Dieu, même s'ils étaient circoncis, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas circoncis de cœur. Donc, ce n'était que l'extérieur qui faisait d'eux des Juifs, mais ils n'étaient pas Juifs réellement. Comme Paul dit, le vrai Juif, c'est celui qui l'est du cœur, qui est attaché au Seigneur de tout son cœur et qui le sert sincèrement, sans hypocrisie. Mais c'était une déclaration choc de Paul. Et en fait, ce qu'il nous écrit ici, ce qu'il nous a écrit dans le chapitre 2, c'est ce qu'il annonçait lorsqu'il allait de ville en ville, de village en village, dans ses voyages missionnaires, comme quand on étudiait dans la lettre aux actes, le livre des actes des apôtres, et on voit les plusieurs voyages missionnaires que Paul a fait. Et dans chaque ville, il allait d'abord présenter l'Évangile aux Juifs pour annoncer la bonne nouvelle, mais il devait leur faire réaliser leur injustice dans leur propre vie, et qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Mais c'était une déclaration choc, surtout quand ils venaient toucher au point sensible de l'alliance, de la circoncision. Donc, ça a soulevé des objections, des questions, et c'est ce à quoi Paul va commencer à répondre au chapitre 3. Donc, il va répondre à plusieurs objections qu'il a entendues dans ses voyages missionnaires, dans son évangélisation. Tournez avec moi dans le chapitre 3 de Romains, la lettre aux Romains. Romains, chapitre 3. Ce matin, on étudie les versets 1 à 8. Romains 3, 1. Quel est donc le privilège du Juif? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Considérable de toute manière. Tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Et quoi? Si quelques-uns ont été infidèles, leur infidélité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu? Certes, non. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, « Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. » Mais si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste lorsqu'il donne cours à sa colère? Je parle à la manière des hommes. Certes, non. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu abonde pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme un pécheur? Et comme certains calomniateurs prétendent que nous le disons, pourquoi ne ferions-nous pas du mal afin qu'il en arrive du bien? Mais la condamnation de ces gens est juste. Amen. Bon, vous conviendrez avec moi que c'est un passage qui est difficile, parce qu'on peut y voir plusieurs sens et plusieurs manières d'interpréter ce passage-là. Même les commentateurs ne sont pas tous du même avis, mais je vais vous livrer ce matin ce que je crois être la meilleure interprétation. Je crois ici que Paul est en train de répondre à des opposants qui sont juifs, bien que ces vérités-là sont vraies pour tout le monde. Je pense qu'il est ici en train de répondre à plusieurs objections, plusieurs questions, ou même des fausses rumeurs, des faux enseignements à propos de l'Évangile. Donc, Paul allait, il présentait l'Évangile, premièrement aux Juifs, et il se faisait répondre des faux enseignements, en fait, des réponses qui n'étaient pas justes, et Paul ici les contre, en fait. Il donne des réponses à ces accusations-là. Donc, les chrétiens de Rome avaient besoin d'entendre cela. Il y avait des Juifs parmi eux, et eux-mêmes pouvaient se poser ces mêmes questions-là. Et nous aussi, encore, en 2022, on a besoin d'entendre ces choses-là. Plusieurs des vérités qu'on va voir ce matin, on les connaît déjà, mais c'est bon de se les rappeler. C'est des doctrines de base essentielles pour notre bonne compréhension de qui est Dieu, quel est son plan. Donc, on va voir, on peut regrouper les différentes objections en trois. Donc, la première objection que Paul a dû entendre à plusieurs reprises, c'est « Si c'est vrai ce que tu dis, Paul, tu es en train de dire qu'être juif, ça ne sert à rien. » Que l'alliance que Dieu a établie là, au temps de Moïse, la loi qu'il a donnée, là, la circoncision qu'il a établie pour, même pour marquer les membres de son peuple, ça ne sert à rien. Tout ça, ce n'est pas bon. Donc Dieu s'est trompé, il a fait quelque chose de vain. L'ancienne alliance ne servira à rien si on croit l'évangile que tu nous annonces. Mais bien sûr que non. Mais si on se rappelle l'évangile que Paul annonce, qui est l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, c'est que tous les hommes, toutes les femmes ont péché. Tous, un jour ou l'autre, ont commis une action contre la volonté de Dieu et que Dieu avait raison d'être en colère. Mais ce qui est particulier de l'évangile que Paul prêche, c'est que autant les Juifs que les gens de toutes les nations, qui sont appelés des païens, des gentils, tous ont commis des péchés contre Dieu. Bon, ce que Paul insistait lorsqu'il annonçait l'Évangile aux Juifs, c'est que même si vous êtes dans l'Alliance, si vous avez péché, vous vous êtes mis coupable devant Dieu et vous allez être condamné avec les autres. Mais la question était quand même bonne, est-ce que ça veut dire que finalement, être juif, ça ne sert à rien? Est-ce qu'il n'y avait aucun avantage à être dans l'Alliance? Mais à cela, Paul répond, non, au contraire, les privilèges sont très grands. C'était tout un privilège de faire partie du peuple de Dieu, du peuple qu'on peut voir dans l'Ancien Testament. Et le plus grand de ces privilèges-là, c'est que les oracles de Dieu, la révélation de Dieu a été confiée à ce peuple. Quel grand privilège! Dieu a envoyé ses prophètes, on peut le voir à plusieurs reprises, dont Moïse, pour transmettre sa parole à lui, là, le Créateur qui se révèle aux hommes et il se révèle aux Juifs. Donc la lumière là, que Dieu a donnée au monde de ténèbres, elle est passée par les Juifs, par Israël. C'est tout un privilège qu'ils avaient. Alors que les autres nations s'inventaient toutes sortes de dieux, parce que tout le monde sait bien qu'il doit y avoir un Dieu. C'est Dieu qui a mis même cette connaissance-là dans notre conscience. Alors que les nations s'inventaient des dieux, s'inventaient des religions, et étaient dans l'erreur, étaient aveugles, Dieu s'est révélé aux Juifs, le vrai Dieu. Donc, Dieu s'était révélé à tous sur la terre de manière générale, dans sa création, dans la nature. Lorsqu'on observe le monde qu'il a créé, on sait qu'il y a un créateur, on sait qu'il est bon, on sait qu'il est puissant. Et il s'est révélé aussi dans notre conscience. Toute personne sur la terre a une conscience du bien et du mal. On sait que de tuer quelqu'un, c'est mal. Bon, avec le temps, peut-être notre conscience peut se détériorer, mais toute personne a une conscience du bien et du mal, et ça, c'est Dieu qui se révèle en nous. Mais Dieu s'est révélé d'une manière spéciale, c'est ce qu'on appelle la révélation spéciale, par sa parole. Qu'il a d'abord transmis au peuple d'Israël. Il leur a confié, même le mot « confié », c'est vraiment dans le sens de « je vous fais confiance, je vous transmets mes paroles. Je passe par vous pour me révéler à l'humanité entière. » C'était tout un honneur qu'ils ont reçu. Et Dieu a dirigé les auteurs de l'Ancien Testament pour que ce qu'ils ont écrit dans tous les livres de l'Ancien Testament, ça soit sa parole, vraiment la parole inspirée par son Saint-Esprit. Et Dieu a permis en plus que les Juifs prennent soin. C'est sûr que ce n'est pas tous les Juifs qui ont eu à cœur de prendre soin de la parole, mais Dieu a fait en sorte que certains ont même consacré leur vie à être des scribes, à étudier la parole de Dieu, les Écritures, et ont préservé ces écrits-là jusqu'à aujourd'hui intacts. On peut lire vraiment la parole qui a été écrite là. Donc, c'est Dieu qui a produit cela. Et donc, c'est tout un honneur que Dieu a confié au peuple d'Israël. Et on pourrait lister une longue liste de privilèges aussi qu'ils ont reçus. Mais la plus importante, c'est que Dieu s'est révélé à travers eux. Et les Écritures contiennent la loi parfaite de Dieu, sa volonté, qui est une volonté parfaite. Et Dieu leur a donné, dans le cadre de cette alliance-là qu'il a établie avec eux. Il dit, maintenant, on fait un pacte, une alliance, un contrat. Je m'engage à être fidèle envers vous, mais vous, engagez-vous à obéir à ma parole, à ma loi. Mais ça, en soi, c'était un grand honneur qu'il leur faisait. On lit dans Deutéronome 4, « Voyez, ici c'est Moïse qui parle, « Je vous ai enseigné les prescriptions, les ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Les peuples entendront parler de toutes ces prescriptions et ils diront « Wow, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. » Dans Deutéronome 28, on lit « Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Wow! Ça, bien sûr, c'était dans le cadre de l'Alliance et c'était à la condition qu'ils obéissent à toutes ces prescriptions, mais les prescriptions de Dieu étaient bonnes. Et ça faisait en sorte que la société, même israélite, là, qui mettait en pratique ces lois, surpassait en sagesse toutes les autres nations. Et c'est arrivé. On a un exemple court dans la vie du peuple d'Israël, mais à l'époque du roi Salomon, où les autres nations même comparaient la sagesse de Salomon avec la sagesse de leur roi ou la sagesse de leur sage. Et ils disaient, il n'y a rien qui arrive à la cheville de Salomon. Même la reine de Saba est venue pour se mesurer à lui, puis elle a été stupéfaite. Tout simplement parce qu'ils appliquaient les principes de sagesse de Dieu qu'on trouve dans les Écritures et sa loi. Et tout le peuple a connu un air de paix et de bénédiction. Les Écritures aussi contiennent non seulement la loi, mais aussi les précieux récits historiques où on voit depuis la création du monde même, le récit des patriarches et les récits de tous les événements importants que Dieu voulait nous transmettre. On voit aussi la poésie qui met en valeur toutes les qualités de Dieu et qui révèle aussi le cœur de l'homme en relation avec son Dieu. On voit aussi les prophéties qui ont été adressées à Israël et aux autres peuples, même à travers Israël, des prophéties qui sont adressées aux Égyptiens, aux Babyloniens et à toutes les nations de la terre, même à l'avance. Et des prophéties les plus précieuses qui annoncent la venue du Messie, la venue de Christ, le Fils de Dieu, qui va venir sauver l'humanité. Et ça, c'est à Israël que ça a été confié, ces belles promesses-là. Donc, ça fait d'Israël un peuple extrêmement privilégié. Donc, ce n'est pas vrai que l'Évangile du Nouveau Testament est en train de dire que l'Ancienne Alliance ne vaut rien. En fait, c'est des calomniateurs, c'est des gens qui voulaient dénigrer Paul qui disaient ça. Mais ce n'est pas vrai. Encore pour nous aujourd'hui, même d'étudier l'Ancien Testament est très précieux et très utile. C'est même encore aujourd'hui un privilège pour les Juifs d'appartenir au peuple juif, même en 2022. Et ça va l'être encore jusqu'au retour de Jésus. L'Évangile, finalement, c'est la bonne nouvelle qui est d'abord adressée à ceux qui avaient reçu les promesses dans l'Ancien Testament. Il est d'abord adressé aux Juifs et ensuite à toutes les nations, à nous. Mais nous, nous sommes comme greffés à ce peuple que Dieu avait élu. Et ça en sera comme cela jusqu'à la fin. Je suis sûr que Dieu va toujours garder un reste fidèle en Israël. Et qui sait, plusieurs prient et espèrent qu'à la fin, un grand nombre vont se convertir. Ils vont reconnaître que Jésus est le Messie qu'ils attendent. Donc, cette objection-là de la part des Juifs, c'est en fait, même puisqu'ils refusent l'Évangile que Paul annonce, c'est même, dans un sens, un reproche fait à Dieu. C'est comme si l'Évangile serait l'aveu que l'Ancienne Alliance serait mauvaise, inutile, mais c'est faux. Dieu ne fait jamais rien pour rien, et c'était utile dans son plan. Mais puisqu'une très grande majorité des Juifs n'ont pas été fidèles et n'ont pas connu toutes les bénédictions que Dieu avait pourvues pour eux, avait tenu pour eux en réserve, et ils ont plutôt subi les conséquences de leur désobéissance. À répétition, les Juifs retombaient dans l'infidélité, dans l'adultère, adoraient d'autres dieux, tombaient dans le péché. Ça nous amène à la deuxième objection que les Juifs ont souvent présentée à Paul. Les Juifs ont dû dire quelque chose comme ça à Paul. Si, admettons que quelques Juifs ont été infidèles et que Dieu va vraiment les condamner pour cela, de la même manière qu'il va condamner les païens, ça voudrait dire que Dieu n'est pas fidèle à ses promesses. Parce que Dieu a promis là, qu'Israël serait toujours son peuple. Donc, tu es en train de dire, Paul, là, si c'est vrai, l'Évangile que tu présentes, que tous les pécheurs seront condamnés, que Dieu n'est pas fidèle envers le peuple qu'il a choisi. Mais bien sûr, c'est faux. Dieu n'est certainement pas infidèle en condamnant le pécheur. Dans tous les cas, si jamais il y a une contradiction entre Dieu, la parole des hommes et la parole de Dieu, c'est toujours celle de Dieu qui remporte. C'est pour ça que Paul va jusqu'à dire que tous les hommes soient trouvés menteurs et Dieu vrai, véritable. Et là, il cite le psaume 51 dans une manière qui présente une scène comme si Dieu était amené au banc des accusés dans un procès. Et quand là, on met Dieu sur le banc des accusés, puis on lui fait des reproches, puis là, il y a les hommes contre lui. Mais en citant le psaume 51, Paul dit, « Afin que tu sois, Dieu, trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. » Qu'à chaque fois que des gens oseront mettre en doute ta justice, ta fidélité, bien, que tu triomphes. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas infidèle à sa parole lorsqu'il condamne les pécheurs, même du peuple qu'il avait choisi. Parce que ses promesses ne contenaient pas que la bénédiction pour l'obéissance, mais aussi la punition, la condamnation pour la désobéissance. Et c'est un engagement de Dieu solennel. Dieu s'engageait à bénir s'ils obéissaient, mais il s'engageait aussi à punir, à maudire, à condamner s'ils désobéissaient. Donc, si Dieu est juste et fidèle à toutes ses promesses, il va être fidèle dans les deux sens, dans le positif comme dans le négatif. Mais on a tendance à oublier les avertissements de Dieu. Donc, quand Dieu punit son peuple, comme il l'a annoncé, il montre qu'il est fidèle. Ce n'est pas de l'infidélité. Donc, contrairement aux accusations des Juifs contre l'Évangile, contre cet enseignement, Dieu n'est ni infidèle, ni menteur, ni injuste dans ses jugements. Il est toujours fidèle, vrai et juste. On le sait, ça, mais c'est bon de se le rappeler. Et ça nous conduit à la troisième objection. Donc, Paul semble aussi avoir reçu des Juifs des objections qui découlent de cela, lorsqu'il dit que Dieu est fidèle et qu'il punit. Certains Juifs semblent lui avoir dit, « Si c'est vrai qu'en comparaison à Dieu, nous sommes injustes, tu dis que tous les hommes sont menteurs et que seulement Dieu est vrai, est véritable, en admettant que c'est vrai, là, ça veut dire que lorsque nous sommes injustes, pécheurs, ben ça fait en sorte par contraste d'élever Dieu. C'est comme si Dieu ressort, Dieu brille, parce que nous, on est dans les ténèbres. Et plus notre péché est révélé, plus la justice de Dieu est révélée, sa sainteté est révélée. Alors pourquoi est-ce qu'on nous punit si ça lui est utile, si ça le glorifie? Il ne devrait pas nous punir, ça sert à le glorifier lorsqu'on est comparé à lui. Dieu serait injuste s'il nous condamnait, comme tu le dis, Paul, car notre péché est utile à Dieu. Ça le glorifie. Pourquoi est-ce qu'il nous punit si notre péché rend service à sa gloire, si notre mensonge glorifie la vérité de Dieu, met en relief la vérité de Dieu? Bien sûr, c'est un faux raisonnement, n'est-ce pas? C'est quand même logique comme raisonnement, mais on voit que Paul a dû se défendre et c'est toujours par la parole de Dieu qu'il se défend. Dieu est un juge parfaitement juste qui n'est pas influencé dans ses jugements par les bénéfices qu'il va retirer. Même si c'est vrai que lorsqu'il est comparé, ça le glorifie et toute sa sainteté est montrée, Dieu ne va pas juger favorablement quelqu'un ou tolérer le péché dans la vie de quelqu'un parce qu'il en tire un bénéfice. Quelqu'un qui agit comme ça aujourd'hui, quelqu'un qui est en position d'autorité, et qui va faire des passe-droits pour quelqu'un parce que ça lui rend service. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui est corrompu, qui est vendu, qui a été acheté. Quand un juge rend un verdict là, qui est vraiment douteux, là, tout le monde est convaincu que la personne est coupable et qu'il déclare innocent, on a un doute, on se demande. Bon, au Québec, heureusement, on peut avoir confiance au système de justice, je pense. Mais ailleurs, on peut se demander. Mais il y a un soupçon qui pèse. Est-ce que la personne a été achetée? Est-ce que la personne a été vendue? Est-ce que c'est parce que ça lui rapporte quelque chose? Il y a toujours un doute, même lorsque des politiciens prennent des décisions, on se demande si ce n'est pas pour l'avantage de leur parti politique ou si c'est seulement pour le bien de la population. On se demande, là, mais dans le cas de Dieu, il nous le déclare et on le voit à travers l'Ancien Testament. C'est pour ça que C'est nécessaire de lire l'Ancien Testament. On voit comment Dieu interagit avec les hommes. Il est toujours juste. Toujours. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas... Il ne sera jamais vendu à notre cause pour tolérer une faute dans nos vies. Sinon, comme dit Paul, comment est-ce qu'il pourrait être le juge du monde entier? S'il faisait des passe-droits avec vous, là, avec son peuple, puisque le peuple d'Israël, lorsqu'il pêche, ça fait montrer leur Dieu vraiment saint, puis qu'il tolérait cela parce que ça lui sert pour sa gloire, comment est-ce qu'il pourrait juger les autres nations, juger la terre entière? Et pourtant, les Juifs étaient convaincus que Dieu allait juger la terre entière, mais pas eux. Donc, sur le plan logique, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'ils pourraient juger le monde s'il était injuste? Et ils sont allés jusqu'à se moquer de Paul. Même en disant aux autres, hey, écoutez-le Paul, parce que lui, ce qu'il annonce, c'est qu'on peut pécher, puis ce n'est pas grave. Parce que Paul annonçait la grâce, qu'on pouvait être pardonné, que même le pire des pécheurs pouvait trouver grâce auprès de Dieu. Mais là, ils utilisaient cette logique-là de comparaison de péché qui glorifie Dieu, en disant, si c'est vrai que notre péché a servi le plan de Dieu et que Dieu l'a changé en bien dans son plan, il a produit du bien avec le mal qu'il y avait dans le monde, alors pourquoi on ne ferait pas volontairement plus de mal pour qu'il y ait encore plus de bien qui sorte? Bien, c'est logique, mais c'est une folie. Pourquoi c'est une folie? Mais même Paul va jusqu'à dire que ceux qui raisonnent comme ça montrent combien leur cœur est mauvais et combien leur condamnation est juste lorsque Dieu les punira. En fait, c'est vrai que le mal a servi le plan de Dieu. On doit en convenir. À cause du péché, c'est vrai que la gloire de Dieu s'est révélée davantage. Par exemple, tous ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu, qui reçoivent son pardon, j'espère que c'est la majorité d'entre vous, j'espère que c'est chaque personne ici réunie, chaque personne qui nous écoute sur YouTube, qui connaît la grâce de Dieu, le pardon. Mais quand on a péché dans notre vie, puis qu'on obtient le pardon de Dieu, qu'il efface notre dette, ça nous donne un sujet de louange. On va le louer pour l'éternité, pour sa grâce envers nous. Bon, je ne suis pas en train de dire que le mal, c'est une bonne chose. Mais les anges ne vont pas louer le Seigneur parce qu'il les a pardonnés. Ils n'ont pas connu ça, cette chute et ce relèvement. Nous, on va le louer parce qu'il va nous avoir épargnés de la colère de Dieu, de sa propre colère, de son jugement. C'est ce qu'on lit dans Éphésiens 1, 3 à 12. Il dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui. » Wow! Dieu avait décidé qu'il nous rendrait saints, sans défaut, qu'il allait nous laver. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, selon son plan, pour célébrer non seulement sa gloire, mais célébrer la gloire de sa grâce. Il veut qu'on le célèbre pour l'éternité parce qu'il nous accorde sa grâce. Sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, en Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang, dont Jésus nous a rachetés par son propre sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, c'est-à-dire de réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Donc vraiment de tout restaurer en Jésus, d'avoir Jésus à la tête. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Mais tout ce plan-là là, de sauvetage, de salut, c'est parce que le mal était entré dans le monde. Mais Dieu avait même planifié d'envoyer son Fils un jour nous sauver, avant même d'avoir créé l'univers. Ça fait partie de son plan, que l'on ait chuté, mais qu'il vienne nous sauver, et qu'on le glorifie parce qu'il nous a sauvés pour l'éternité, et qu'on va lui être reconnaissant. Dans un sens, le mal ait produit un bien infiniment grand. Et le plus grand exemple de mal qui a produit du bien, c'est la mort de Jésus. Et son propre peuple l'a rejeté, l'a crucifié, il l'a même fait mettre à mort par la main des Romains, de l'armée romaine, par la main des païens. C'est un grand mal. On lit dans Actes 2, « Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes que Dieu a faits au milieu de vous, par lui, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le plan arrêté, selon la préscience de Dieu. » Donc, c'était le plan de Dieu que Jésus meure. Mais il dit quand même, « Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. » Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc, Dieu a voulu ce grand mal, la crucifixion de son propre Fils, pour produire du bien, un bien qui est d'une grandeur inimaginable pour nous, là, qui nous lave de nos péchés et qui va un jour faire produire même notre résurrection. Nous serons réunis avec Christ en chair et en os. On lit dans Actes 2 aussi, verset 36, un peu plus loin, que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Cependant, même si le mal fait partie du plan de Dieu, ça n'enlève jamais la responsabilité de ceux qui le commettent. C'est ça qui est une vérité difficile à saisir dans la Bible, mais jamais ceux qui commettent le mal, même si ça fait partie du plan de Dieu, sont excusés, sont justifiés pour le mal qu'ils ont fait. Chaque personne qui commet une faute, un péché, est responsable, est pleinement coupable. Par exemple, la trahison de Jésus par un de ses apôtres, par Judas, ça faisait partie du plan de Dieu. Dieu a voulu que l'un des 12 trahisse Jésus. Il était destiné à cela. Bien sûr, c'était pour changer ça en bien. Il fallait que Jésus meure pour notre pardon, pour qu'il paie notre dette. Mais même si Judas a servi le plan de Dieu, ça n'enlève pas sa responsabilité. Il est répréhensible. Malheureusement, il a payé de sa vie. Et à la fin des temps, il va payer pour une mort éternelle. Donc, même si c'est paradoxal, et même on doit avouer que c'est impossible à pleinement comprendre dans notre esprit humain, la souveraineté de Dieu, ses décisions, son plan, qui inclut même les événements mauvais que l'on peut vivre, et même nos chutes, ne contredit jamais la responsabilité de l'homme. Même si on n'arrive pas à tout mettre ça ensemble, les pécheurs sont pleinement coupables. On doit finalement accepter les deux. Ce sont deux vérités que la Bible présente. J'espère que vous avez reconnu un jour que vous étiez coupable des fautes que vous avez commises. J'en ai commis moi aussi, et j'en commets encore. Le seul moyen d'obtenir le pardon de Dieu, ce n'est pas de se convaincre que c'était utile pour Dieu, ou que finalement ça va le faire paraître mieux, vu que moi je ne parais pas bien. Non, c'est d'avouer qu'on a péché et de lui demander son pardon, parce que son pardon, il l'offre. Pas d'une manière injuste parce qu'il va cacher ça sous le tapis, mais c'est parce qu'il a déjà payé la dette. Comme si un juge rendait verdict et disait « Je te condamne à 25 ans de prison. » Mais le juge finalement dit « Mais tu n'as pas besoin d'aller en prison, j'ai déjà payé ces 25 années-là. J'ai déjà payé le 2 millions de dollars pour ta caution. » Dieu a déjà payé en sacrifiant son propre fils. Le seul moyen d'obtenir le pardon, c'est que vous mettez votre confiance en cela. Votre confiance dans le sacrifice de Jésus. Vous demandez pardon à Dieu. « Pardonne-moi, je crois que ton fils est mort pour moi. » Et vous serez pardonné. Donc, le passage de ce matin, c'est un bon exemple du mal, même qui est changé en bien, finalement. Tous ces opposants juifs que Paul a rencontrés l'ont poussé à réfléchir, à défendre sa foi, à défendre l'Évangile, et à mettre par écrit même ces précieux passages. Donc, le Nouveau Testament a écrit dans ce contexte de grande opposition. Mais on en bénéficie, hein, puis il y a des milliers, des millions de personnes qui se sont converties en lisant le Nouveau Testament. Et donc, ces réponses sont très précieuses. Donc, en résumé, premièrement, Dieu est parfaitement fidèle, non seulement lorsqu'il bénit, Mais même lorsqu'il punit, parce que c'est fidèle à sa parole, c'est fidèle à ses promesses, on peut être confiant que Dieu sera à 100% fidèle à tout ce qu'il dit. Même on s'est rappelé plusieurs promesses ce matin, hein, même si les montagnes chancellent, les collines, je me souviens des mots, quand les montagnes s'éloignent, mais Dieu est toujours là. Et on peut en témoigner si on connaît Dieu personnellement, qu'on est en relation avec lui. Mais il nous promet même si on ne peut pas encore le voir, que lorsqu'on se convertit, qu'on devient vraiment un serviteur de Dieu, même qu'on devient son enfant, il nous adopte dans sa famille. Il devient notre père, on peut l'appeler papa quand on prie. Il nous réserve une place même dans sa maison pour l'éternité. Un jour, même si nous devons passer par la mort avant que Jésus revienne nous chercher, il va nous ressusciter avec un corps qui ne sera plus jamais courbaturé après un comptoir alimentaire, qui ne souffrira plus de la vieillesse ou de la maladie, un corps renouvelé et débarrassé de toute faiblesse, débarrassé de toute tentation du mal. Il va nous accepter dans sa présence, dans son amour pour l'éternité, parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de Jésus. Et nous serons complètement heureux, même d'un bonheur qui dépasse notre imagination. Si vous avez un souvenir d'un moment dans votre vie où vous avez été le plus heureux, là, c'est rien à comparer à ce qu'on va connaître pour l'éternité sur la nouvelle terre qu'il est en train de nous préparer. Donc Dieu est toujours fidèle, contrairement à ceux qui disent que Dieu ne l'est pas. Deuxièmement, même s'il y a beaucoup de méchanceté dans le monde, même si on peut voir l'infidélité des Juifs, de son propre peuple dans l'Ancien Testament, on peut voir le mensonge, l'injustice des hommes, tout cela, ça n'affecte en rien les qualités de Dieu. Ce n'est pas parce que son peuple défaille que lui défaille. Dieu est toujours fidèle, toujours juste, toujours vrai. Fidèle, juste et vrai. Et c'est étonnant, je relisais dernièrement dans Apocalypse, et ce sont trois qualités qui sont attribuées à Jésus. Apocalypse 19, 11 dit, « Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il est le juge, et il combat avec justice. » Ce n'est pas étonnant, puisque Jésus est Dieu. Et troisièmement, ne pensons pas que, on se le rappelle, même on se l'est rappelé ce matin dans le cours avec Ronald, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même nos chutes, même nos écartades parfois, là, ça fait partie du plan de Dieu qui veut nous amener vers la sainteté. C'est pour notre bien. Mais ne pensons pas que cela nous permet de pécher. Ah, de toute façon, Dieu fait tout concourir au bien et ça va servir la bonne cause. C'est une erreur. Lorsqu'on pêche, on se rend coupable. Et il faut retourner vite, demander pardon au Seigneur qui est fidèle pour nous pardonner. Mais ça ne diminue pas la gravité de nos péchés. Et s'il nous pardonne, c'est pas à cause de nos beaux yeux, là, c'est uniquement parce que son Fils a déjà payé à notre place. La dette a été payée. Donc, souvenons-nous de cela. Là. Lorsque nous péchons là, et que Dieu accepte de nous pardonner, il a payé très cher le prix le plus élevé là, qui soit pour pouvoir effacer notre dette. Donc, ne soyons pas ingrats. Purifions-nous par reconnaissance à Dieu qui nous a fait grâce. Donc, que la parole de Dieu que nous l'avons lue ce matin, là, qu'elle porte fruit dans nos vies. Amen.